Vous écoutez KTO Radio, il est 23h. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 14e. Qui est celui-là qui parcourt les cercles de notre mont avant que la mort lui ait donné le vol et qui ouvre et ferme les yeux à son gré? Je ne sais qui il est, mais je sais qu'il n'est pas seul. Demande-le-lui, toi qui es plus près, et afin qu'il parle, fais-lui un doux accueil. Ainsi, deux esprits penchés l'un sur l'autre discouraient là de moi à main droite. Puis, pour me parler, ils renversèrent la tête et l'un dit « Ô âme, qui encore unie au corps t'en va vers le ciel, par charité console-nous, et dis-nous d'où tu viens et qui tu es. De la grâce qui t'est faite, nous sommes étonnés, autant qu'on doit l'être d'une chose qui auparavant ne fut jamais. Et moi, par le milieu de la Toscane s'épand un petit fleuve qui naît dans le Falterona, et qu'un cours de 100 000 ne rassasie pas. De ses rives, j'apporte ce corps. Vous dire qui je suis serait parler en vain, mon nom encore ayant peu retenti. Si mon intelligence saisit bien ta pensée, me répondit alors le premier, tu parles de l'Arnaud. Et l'autre lui dit, pourquoi a-t-il caché le nom de cette rivière comme on le fait des choses horribles? Et celui à qui cette demande était faite ainsi s'acquitta, « Je ne sais. Mais bien est-il juste que périsse le nom de ce fleuve qui, de sa source, ou le mont alpestre dont le Péloré est un tronçon, d'eau abonde tellement que peu de lieux en cela le surpassent, jusque-là où il se rend pour renouveler ce que le ciel évapore de la mer, d'où les fleuves tirent ce qui avec eux va, ne rencontre que gens qui tous, tenant la vertu pour ennemi, la fuient comme une couleuvre par le malheur du lieu ou par la mauvaise habitude qui les aiguillonne. D'où tant ont changé de nature les habitants de la misérable vallée qui semble que Circé les ait tués dans ses pâturages. Parmi de sales pourceaux, plus dignes de glands que d'une autre nourriture à l'usage de l'homme, ils dirigent d'abord son maigre cours, puis descendant, ils trouvent des roquets plus hargneux que ne le comporte leur force, et d'eux ils détournent son museau dédaigneux. Il descend encore, et plus il grossit, plus le fleuve maudit et néfaste trouve de chiens qui se font loups. Ayant ensuite traversé des ravins plus sombres, il trouve les renards, si pleins de fraude qu'ils ne craignent point qu'aucune habileté les vainque. Je le dirai, quoique d'autres m'entendent, eh bien s'en trouvera celui-là s'il se souvient de ce qu'un esprit vrai me dévoile. Je vois ton neveu qui devient chasseur de ces loups sur la rive de l'horrible fleuve et les épouvante tous. Il vend leur chair vivante, puis il les tue comme on tue une vieille bête. Beaucoup de la vie et lui d'honneur il prive. Sanglante, il sort de la triste forêt, telle il la laisse que, comparée à ce qu'elle fut jadis, d'ici à 1000 ans, elle ne se reboisera pas. Comme à l'annonce de cruels désastres, se trouble le visage de celui qui écoute, de quelque côté que le péril le menace, ainsi vis-je l'autre âme, qui se tenait tournée pour entendre, se troubler et s'attrister après qu'en soi, elle eût recueilli les paroles. Le dire de l'une et la vue de l'autre me rendirent désireux de savoir leur nom, et je les demandais avec prière. Sur quoi celui qui le premier avait parlé recommença. « Tu veux que je condescende à faire ce que tu n'as pas voulu faire pour moi ? Mais puisqu'en toi Dieu veut que t'en reluise sa grâce, je ne te refuserai pas. Sache donc que je suis Guido del Duca. Mon sang fut si enflammé d'envie que si quelqu'un j'avais vu se réjouir, de jalousie tu m'aurais vu livide. De ce que je semais, une telle paille je moissonne. Ô humaine espèce, pourquoi mets-tu ton cœur là d'où doit être exclu ton compagnon ? Celui-ci est Rinieri, l'ornement et l'honneur de la maison de Calboli, où nul ne s'est rendu héritier de sa vertu. Et non seulement sa race, entre le Pô et le Mont et la mer et le Renault, est devenue pauvre de biens requis pour jouir du vrai et du contentement, mais au-dedans de ses limites, tant abondent les plantes vénéneuses que sans fruits désormais serait une culture tardive. Où est le bon Licio et Arrigo Menardi, Pierre Traversaro et Guido di Carpigna? Ô Romagnols tombés en bâtardise, lorsqu'à Bologne un Fabro se fait de haute lignée, lorsqu'à Faenza un Bernardino di Fosco d'une herbe rampante devient la noble tige. Ne t'étonne point, ô Toscan, si je pleure lorsqu'avec Guido da Prata je me rappelle Ugolin d'Azzo, qui vécut avec nous, Frédéric Tignoso et ses compagnons, la maison Traversara et les Anastagi, et l'une et l'autre race est déshéritée, si je pleure les dames et les cavaliers, les soucis et les joies qu'en eux excitaient l'amour et la courtoisie, là où les cœurs sont devenus si mauvais. Ô Bretinoro, que ne fuis-tu, puisque ta famille avec tant d'autres s'en est allée pour ne pas se corrompre? Bien fait, Bagnacavallo, qui ne veut point de fils, et mal, Castrocaro, et pis, Cogno, plus empressé d'engendrer de tels contes. Bien feront les Pagani, lorsque leur démon s'en ira, non cependant que jamais il reste d'eux une mémoire pure. Ô Ugolin de Fantoli, en sûreté est ton nom, parce que ne s'attend plus de toi qui puisse en fort lignant l'obscurcir. Mais va, Toscan, car trop plus maintenant me délecte le pleurer que le parler, tant notre pays m'a serré le cœur. Nous savions que ces chères âmes nous entendaient aller, et ainsi, en se taisant, elles nous donnaient confiance dans le chemin. Lorsqu'ayant avancé, nous fûmes seuls, semblables à la foudre qui fend l'air, de devant nous vint une voix. Me tuera quiconque me rencontrera. Et elle s'enfuit, comme s'éloigne le tonnerre qui subitement déchire la nuée. Lorsque d'elle notre ouïe eut trêve, tout à coup une autre, avec un tel fracas qu'elle ressemblait au tonnerre qui suit un autre tonnerre, « Je suis Aglaure, qui devint rocher. » Et alors, pour me serrer contre le poète, en arrière je portais le pied et non en avant. Déjà partout l'air était tranquille. Et lui me dit « Cette voix est le dur frein qui devrait retenir l'homme dans ses bornes. » Mais vous prenez l'appât de sorte qu'à soi vous tire l'hameçon de l'antique adversaire et ainsi peu vous serre le frein ou l'appel. Le ciel vous appelle, autour de vous il tourne, vous montrant ses beautés éternelles, et votre œil à terre seulement regarde. Pour cela, vous châtie celui qui voit tout. Chant 15e. Entre la fin de la troisième heure et le commencement du jour, autant il apparaît de la sphère toujours en mouvement, comme l'enfant qui joue, autant paraissait-il en rester au soleil pour achever son cours. Là était le soir, et ici le milieu de la nuit, et les rayons me frappaient en pleine face, parce que nous tournions le mont de manière que nous allions droit vers le couchant. Lorsque je sentis mes yeux éblouis d'une splendeur plus vive qu'auparavant et que de stupeur me remplissaient les choses nouvelles. D'où, au-dessus de mes sourcils, je levai les mains et me fis une ombrelle qui diminuait l'excessive lumière. Lorsque de l'eau ou du miroir jaillit le rayon, en direction contraire, remontant de la même façon qu'il est descendu, et par son égale vitesse différent de la pierre qui tombe, selon que le montre l'expérience et l'art, Ainsi me parut-il que de devant me frappait une lumière réfléchie, par quoi à fuir mes yeux furent prompts. Qui est, dis-je, doux père, celui contre qui ma vue ne peut trouver d'abri suffisant et qui paraît s'avancer vers nous? Ne t'étonne point si t'éblouissent encore les serviteurs célestes, me répondit-il. Celui qui vient est envoyé pour nous inviter à monter. Bientôt, voir ces choses ne te sera point une peine, mais un plaisir, autant qu'à le sentir ta nature te dispose. Lorsque nous eûmes joint l'ange béni, d'une voix joyeuse il dit « Entrez par ici, dans un escalier beaucoup moins roide que les autres. » Parti de là, nous montâmes et derrière nous fut chanté « Beati misericordes » et « Toi qui vins, réjouis-toi ». Mon maître et moi, seuls tous deux, en haut nous allions et en allant je pensais à tirer profit de ses paroles et vers lui je me tournais ainsi demandant « Que voulait dire l'esprit de Romagne en parlant d'exclusion et de compagnon ?» Et lui à moi, « Il connaît le dommage que cause son plus grand vice, et ainsi que l'on ne s'étonne pas s'il le reprend pour que moins on en pleure. Parce que vos désirs s'attachent à ce qui diminue, partagez entre plusieurs, l'envie vous gonfle de soupirs. Mais si les élevait l'amour de la sphère suprême, en votre cœur ne serait point cette crainte. Car là, on dit plus nôtre, chacun ne possède de bien, et plus dans ce cloître augmente l'ardeur de la charité. Je suis loin d'être satisfait, dis-je, que si d'abord je m'étais tu, et plus de doute en mon esprit s'amasse. Comment se peut-il qu'un bien partagé rende plus riche de soi beaucoup de possesseurs que si de peu il était possédé? Et lui à moi, parce que tu arrêtes ta pensée aux seules choses de la terre. De la vraie lumière tu ne tires que ténèbres. Cet infini et ineffable bien qui est là-haut court à l'amour, comme le rayon au corps que le reflète. Autant il trouve d'ardeur, autant il se donne, de sorte que plus s'étend la charité, plus sur elle s'épand l'éternelle vertu. Et plus là-haut il est d'âmes unies, plus à l'amour le bien se prodigue et plus on s'aime, et comme un miroir l'un à l'autre on rend. Et si ma raison ne te rassasie pas, tu verras Béatrice, et pleinement par elle satisfait sera ce tien désir, et tout autre désir. Tâche seulement que soient guéris, comme déjà deux le sont, les cinq plaies que ferme la douleur. J'allais dire, tu apaises ma faim, quand je m'aperçus que j'étais arrivé à l'autre cercle, de sorte que, désireux de voir, je me tus. Là, il me sembla être soudain ravi en une vision extatique et voir dans un temple plusieurs personnes. Et à l'entrée, une femme, avec une douce contenance de mère, dire « Mon fils, pourquoi envers nous as-tu ainsi agi? Voilà qu'affligés ton père et moi, nous te cherchions. » Et dès qu'elle se tut, ce que j'avais vu s'évanouit. Ensuite, un autre m'apparut. Les joues baignées de ces eaux que fait couler la douleur d'un grand affront reçu. Et elle disait, « Si tu es le maître de la ville dont parmi les dieux le nom excita un si vif débat, et d'où rayonne toute science, venge-toi de ces bras audacieux qui embrassèrent notre fille, ô Pisistrate. » Et le Seigneur humain et doux me semblait lui répondre avec un visage calme, « Que ferons-nous à qui nous veut du mal ?» si celui qui nous aime est par nous condamné. Puis je vis des gens, enflammés de colère, lapider un jeune homme en criant l'un à l'autre « Tue, tue !» Et lui, je le voyais, appesanti déjà par la mort, penché vers la terre, mais les yeux toujours fixés au ciel, et avec un visage où se peignait la pitié, en un si grand combat, prier le Seigneur Très-Haut de pardonner à ses persécuteurs. Lorsque revenant à soi, mon âme se tourna vers les choses qui hors d'elles sont vraies, je reconnus mon erreur non dépourvue de vérité. Mon guide, me voyant pareil à un homme qui rompt les liens du sommeil, dit « Qu'as-tu que tu ne peux te soutenir ? Tu as cheminé plus d'une demi-lieue, les yeux voilés et les jambes vacillantes, comme un homme pris de vin ou de sommeil. Ô mon doux père, si tu m'écoutes, je te dirai, répondis-je, ce qui m'est apparu lorsqu'ainsi mes jambes fléchissaient. Et lui, eusses-tu sans masque sur la face, tes pensées ne me seraient point cachées, si fugitives qu'elles fussent. Ce que tu as vu, c'était pour que tu ne refusasses pas d'ouvrir ton cœur aux eaux de la paix, qui coulent de l'éternelle fontaine. Je n'ai point demandé, qu'as-tu, par ce qui fait que demande celui qui regarde seulement avec l'œil, qui ne voit pas quand le corps gît inanimé. Mais j'ai demandé, pour donner de la force à ton pied, ainsi faut-il exciter les paresseux, lents à user de la veille lorsqu'elle revient. C'était le soir, et nous allions, regardant tout, tant que la vue pouvait s'étendre, à l'encontre des rayons tardifs et brillants, quand peu à peu, voici venir vers nous une fumée obscure comme la nuit, et nul endroit pour s'en abriter, elle nous priva des yeux et de l'air pur. Chant 16e. Les ténèbres de l'enfer et d'une nuit sans planète sous un ciel pauvre, obscurci autant qu'il se peut par des nuages, n'étendirent jamais sur ma face un voile aussi épais que le fit cette fumée qui là nous couvrit. Elle ne permettait pas que l'œil restât ouvert, ce qu'avisant ma fidèle escorte s'approcha de moi et m'offrit son épaule. Comme va l'aveugle derrière son conducteur pour ne pas s'égarer et ne pas se heurter contre quelque chose qui le blesse, ou peut-être le tue, à travers l'air âcre et souillé, je m'en allais écoutant mon guide qui disait seulement « Prends garde à ne te point séparer de moi ». J'entendais des voix et chacune d'elles paraissait demander paix et miséricorde à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Agnus Dei était leur seul exorde. Elle semblait n'avoir toute qu'une parole, qu'un chant, si parfaite était leur concorde. « Quels sont, maître, les esprits que j'entends, dis-je ? » Et lui à moi, « Apprends le vrai, et qu'ils vont déliant le nœud de la colère. Mais toi, qui es-tu qui fends notre fumée et parle de nous, comme si encore tu divisais le temps par calende ? » Ainsi parla une voix, sur quoi mon maître répondit « Réponds et demande si par ici l'on monte. » Et moi, « Ô créature, qui te purifie pour retourner belle à celui qui te fit, tu entendras merveille si tu me suis. »« Je te suivrai autant qu'il m'est permis, » répondit-elle, « et si la fumée ôte le voir, l'ouïr en sa place nous tiendra joint. » Lors je commençais, avec cette enveloppe que la mort dissout en haut, je vais, et ici je suis venu à travers les angoisses infernales. Si Dieu m'a comblé de sa grâce jusqu'à vouloir que je voie sa cour d'une manière maintenant tout à fait inaccoutumée, ne me scelle point qui tu fus avant la mort, mais dis-le-moi et dis-moi aussi si je vais bien vers le passage et que tes paroles soient notre guide. Je fus Lombard et nommé Marc. Je connus le monde et j'aimais cette valeur devant laquelle chacune aujourd'hui débande son arc. Pour aller en haut, tu suis la droite voie. Ainsi répondit-il, et il ajouta, « Je te conjure de prier pour moi quand tu seras là-haut. » Et moi, à lui, « J'engage ma foi de faire ce que tu demandes. Mais en moi est un doute que je ne saurais contenir et qu'il faut que j'explique. » Il était d'abord simple, et à présent il est devenu double, en rapprochant ce que tu m'assures ici de ce qu'on m'a dit ailleurs. Il est bien vrai, le monde est aussi dépeuplé de vertus que tu me le représentes, et plein et regorgeant de malice. Mais je te prie, indique-moi la cause, de sorte que je la vois et la montre aux autres, l'un la place dans le ciel, et un autre ici-bas. Un profond soupir, un hélas douloureux, il poussa d'abord. Puis il commença « Frère, le monde est aveugle, et bien voit-on que tu en viens. Vous qui vivez, vous cherchez la raison de tout au ciel, comme s'il emportait tout dans son mouvement par nécessité. S'il en était ainsi, en vous serait détruit le libre arbitre, et point ne serait-ce justice de recueillir pour le bien la joie, pour le mal les pleurs. Du ciel, vos mouvements ont leur commencement. Je ne dis pas tous, mais supposez que je le dise, pour discerner le bien et le mal, une lumière vous est donnée et le libre vouloir. Qui ne se refuse point à la fatigue des premiers combats contre le ciel, résiste puis vainc tout s'il se nourrit bien. À une force plus grande et à une nature meilleure, libre vous êtes soumis, et celle-ci en vous crée l'esprit que le ciel n'a pas sous sa dépendance. Si donc le monde présent dévie, en vous en est la cause. En vous doit-elle être cherchée, et je vais te la découvrir. De la main de celui qui en elle se complète avant qu'elle soit, comme un petit enfant qui rit et pleure et ne sait pourquoi, simplette sort l'âme qui ne sait rien, sinon que mue par qui l'a créée pour la joie, volontiers elle se tourne vers ce qui l'amuse. D'un léger bien, d'abord, elle sent la saveur, et se trompant, elle court après si un guide ou un frein n'infléchit son amour. D'où il convient qu'il y ait des lois pour imposer un frein et un roi qui de la vraie cité discerne au moins la tour. Il y a des lois, mais qui les prend en main? Personne. Parce que le pasteur qui précède peut ruminer, mais n'a pas les ongles fendus. C'est pourquoi le peuple qui voit son guide rechercher le seul bien dont il est avide s'en repaît et ne demande rien de plus. Ainsi, tu peux voir qu'être mal régi est la cause qui a rendu le monde criminel et non la nature corrompue en vous. Rome, qui au bien ramena le monde, avait coutume d'avoir deux soleils qui montraient les deux routes, celle du monde et celle de Dieu. L'un a éteint l'autre et l'épée est jointe à la crosse, et mal convient-il que par vive force ils aillent ensemble, parce que joint, l'un ne craint pas l'autre. Si tu ne me crois, regarde à l'épi, car toute plante se connaît par sa graine. Dans le pays qu'arrosent l'Adige et le Pô, on trouvait la valeur et la courtoisie avant que Frédéric fût en querelle. Maintenant, peut y passer sûrement quiconque par honte évite de discourir avec les bons et de s'en approcher. Bien s'y voit-il encore trois vieillards en qui l'âge antique réprimande le nouveau, et il leur semble que tard Dieu les appelle à une meilleure vie. Conrad de Palazzo et le bon Gherardo et Guido da Castello qui, à la française, mieux est nommé le simple Lombard. Aujourd'hui, l'Église de Rome, confondant en soi deux pouvoirs, tombe dans la fange et souille elle et sa charge. Ô mon Marc, dis-je, bien tu raisonnes, et à présent je comprends pourquoi les fils de Lévi furent exclus de l'héritage. Mais qui est ce Gherardo que tu dis être resté comme un modèle de la génération éteinte pour être à reproche à ce siècle sauvage? Où me trompe-t-on parler? Où il m'éprouve, répondit-il. Puisque, parlant toscan, tu semblais ne rien savoir du bon Gherardo. Par un autre surnom, point ne le connaît, à moins que je ne l'emprunte de sa fille Gaïa. Dieu soit avec vous. Plus longtemps que je ne vous accompagne, vois blanchir la clarté qui, à travers la fumée, rayonne. L'ange est là. Il convient que je m'en aille avant qu'il paraisse. Ainsi il parla, et plus ne voulut m'écouter.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler armée, patrie, engagement. Padré, bonjour père, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes le père Yannick Lallemand. Vous avez, la saison dernière, avant l'été, écrit ce livre, Padré, mémoire d'un aumônier militaire, paru aux éditions Talendier. Alors vous allez nous parler un petit peu... de ce que vous avez voulu raconter dans ce livre et puis évidemment de cette vocation assez singulière de Padré. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
Ah, je vais prendre un texte que j'aime beaucoup parce que j'ai fait une dizaine d'années au Tchad. J'ai servi dans le désert pendant ces 10 années et je me sentais très proche du père de Foucault, bien sûr. Quand je suis parti au Tchad, j'avais toujours cette petite phrase du père de Foucault, « Sache que ce soir, il pourrait arriver de mourir martyr. » Parce que mon choix de partir au Tchad, ça ne dépendait pas de moi, mais de l'Esprit Saint qui me demandait de tout quitter pour partir évangéliser, continuer l'Église qui grandissait énormément au Tchad. Donc, je suis parti là-bas, après avoir donc laissé mon ministère d'aumônier auprès des soldats. Voilà, et là-bas, ceux qui travaillaient un peu avec moi m'appelaient le curé du désert. C'est pour ça que je reste très fidèle au père de Foucault. Et puis, c'est pour moi un exemple qui m'a peut-être poussé à répondre oui à cet appel du ciel, du bon Dieu, pour aller auprès de ces Tchadiens qui étaient les premiers chrétiens, puisque l'église du Tchad, à cette époque, n'avait que 50 ans d'existence. Voilà. Je vais donc, si vous voulez, prendre cette prière que je lis, bien sûr, tous les jours avant de m'endormir. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père, ainsi soit-il. Voilà cette petite image près de ma table de nuit.
Merci Père. Bon, ça m'étonne pas trop de vous, hein, d'attaquer avec ce choix de texte. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu quand même nous situer d'où vous venez, qui vous êtes ? Vous êtes né où ?
Ah, je suis Nivernais du côté maternel, puisque mon grand-père était avocat. Et je dis qu'il était avocat en particulier des religieuses de Sainte Bernadette du couvent Saint-Gildard à Nevers. Et je suis toujours très heureux chaque année avec les anciens légionnaires maintenant de participer au pèlerinage militaire international cette année à la mi-mai où nous retrouvons cette présence de Bernadette qui 18 fois a eu cet honneur de parler à la Vierge Marie et d'entendre cette petite phrase en béarnais, je pense. Que soy era immaculada conception. Voilà, cette fête de l'Immaculée Conception, Notre-Dame, c'est quand même une figure de notre religion qui est apparue tant et tant et tant de fois à des petits Français, des petites Françaises. Notre pays, c'est un pays qui est choyé par la Vierge Marie, qui régulièrement, elle apparaît pour nous encourager à devenir meilleurs, à suivre le chemin de lumière que nous montre son Fils, Jésus. Et on en est tellement loin de le suivre en ce moment. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Toute cette jeunesse qui était présente aux cendres, il y a déjà quelques mois, mais ces cendres ont été une révélation que la jeunesse, elle avait besoin d'autre chose que les écrans, que tout ce qu'on essaie de leur donner comme nourriture trop matérielle. Ils ont besoin d'autre chose et ils retrouvent maintenant le chemin de l'Église. Et nous savons qu'au moment de Pâques, ils seront très très nombreux. Et au pèlerinage militaire international, chaque année, nous baptisons plus de 50 catéchumènes. Chaque année, 50 catéchumènes en plus de l'année passée. C'est pour dire que l'Esprit Saint travaille et que nous devons avoir confiance, nous devons avoir le sourire, comme c'était le sourire de la Vierge Marie à la petite Bernadette.
Alors vous avez grandi toujours avec cette, on va dire, spiritualité mariale dans la famille ?
Mais si vous venez dans notre maison, dans notre petite chapelle, vous verriez un peu partout le portrait de Bernadette, parce que nous avons fait nos premières communions grâce à l'enseignement que nous avons reçu des sœurs de Sainte Bernadette. Pour nous, c'est quand même quelqu'un qui nous a protégés. Et lors du bombardement de Nevers en 1944, mon père était en captivité, mais ma mère était seule avec 5 petits gamins. Et quand il y avait une alerte, nous descendions dans un fossé que ma mère avait fait creuser avec une tôle ondulée par-dessus pour nous protéger des bombardements. Et à chaque fois que nous descendions à toute vitesse l'escalier pour rejoindre notre coin, eh bien, nous descendions avec Notre-Dame de Lourdes, avec la statue de la Vierge qui nous a protégés, puisque de même que le couvent Saint-Gildard a été protégé, nous aussi nous avons été protégés parce que tout autour c'était la ruine.
Votre père était militaire, il s'est retrouvé dans des régions d'Algérie avec des responsabilités assez importantes. On sait que l'Algérie a vécu une indépendance qui n'a pas été forcément bien vécue dans toutes les familles, notamment les familles de militaires sur place. Tout ça, ça a un peu bousculé aussi la vie de votre famille et peut-être un petit bout de votre enfance quand même. Vous vous retrouvez dans cette famille, avoir une sorte de double appel, plutôt vers l'armée et plutôt vers la prêtrise ?
Non, vers la prêtrise, c'est sûr. Mais comment choisir entre un moine contemplatif, entre un missionnaire, partir à l'autre bout du monde, la paroisse, ou peut-être militaire? Ce n'était pas la vocation première. Mais mon frère aîné, jeune officier parachutiste, a été tué en Algérie, et ça a bousculé toute notre famille. Et être moine à cette époque, dans les années 60, j'étais ordonné prêtre fin 63. Le fait de partir au loin comme missionnaire ou devenir moine, c'était peut-être, à mes yeux, mettre beaucoup de tristesse pour mes parents, qui avaient perdu donc un fils au service de la France en Algérie.
Puis vous aviez quand même un petit peu la bougeotte, vous étiez très très sportif.
Oui,
et vous aviez besoin d'action aussi.
Aussi.
D'ailleurs, quand vous racontez les premières années où vous étiez, j'imagine, vicaire, ou bien...
Tout à fait.
Voilà, voilà. C'était une expérience où vous aviez un peu besoin de mouvement et de bouger à ce moment-là. Hein.
Oui, c'est pour ça que je faisais partie de l'équipe du foot du village de Beaumont-Saint-Cyr. Mm-hmm. J'ai passé 6 ans avec... chaque été, 300 jeunes, j'organisais beaucoup de... Avec l'accord de mon curé, j'organisais des camps, et souvent des camps d'un bon petit niveau, mmh. en vélo, avec tout notre barda sur le porte-bagages, et je faisais des étapes entre 150 et 200 km par jour. Je savais que le soir, j'allais être tranquille. Pour bien dormir et faire la prière voilà. du soir.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce moment où vous avez ressenti un appel à la prêtrise ?
C'était dans les années où j'avais 11, 12 ans. Je ne sais pas pourquoi notre père avait mis les 4 aînés pensionnaires dans un collège privé à Saint-Lazare, à Autun. Et lui-même avait été affecté à Autun. Alors qu'il y avait l'école militaire à Autun, mais lui nous a mis dans un collège religieux. Bon, mes frères ont fait 2 ans, 3 ans, ils sont partis. Moi, je suis resté pendant 5 ans. C'était un régime assez difficile. Je peux vous dire que le matin, on avait, c'était de la soupe plutôt que du café au lait ou du chocolat.
On est en 40...
On était en 40, 46, 47, 46. Voilà. Oui. Mm. Donc, collège religieux, c'est là où j'ai bien senti qu'il y avait un appel. Et qu'on... J'ai demandé à mes parents de quitter ce collège au bout de 5 ans. J'en avais un petit peu assez, loin de la famille. Mon père n'était plus là. Donc j'ai voulu rejoindre la famille. Et là, après, j'ai eu une vie d'adolescent dans les lycées de la République, dans les lycées mixtes, ou là où on connaît des jeunes filles, voilà. On s'attache à des amis. Voilà. Et... Bah, à un moment donné, il a fallu choisir, oui. soit répondre à l'appel du Seigneur, oui. soit continuer cette vie d'adolescent avec des adolescentes, mm-hmm. donc très agréables.
Oui, vous parlez notamment d'une, qui aurait pu être votre épouse.
Qui aurait pu être mon épouse, parce que j'étais très attaché mm-hmm. à elle, puis très sportive mm-hmm. aussi. On se retrouvait sur... très très souvent pour le ski ou autre, voilà.
Et vos amis d'ailleurs pensaient que vous alliez vous marier tout simplement.
Exactement.
Eh ben non.
Eh ben non, mais non, il a été le plus fort, comme j'aime le dire.
Alors, oui. votre engagement, est-ce que vous pourriez, c'est pas évident, hein, mais un peu nous synthétiser votre vocation et votre engagement comme padré dans l'armée. C'était quoi votre rôle ?
Alors, synthétiser 40 années de, oui, auprès des soldats, pour moi, l'aumônier, c'est celui qui se fait très proche, le plus proche possible de ceux vers lesquels il est envoyé. Mmh. Mais l'armée, c'est immense. Mmh. Donc, c'est pas un petit groupe qui veut parler à un homme qui sort de l'ordinaire parce qu'il n'a pas de grade. Mm-hmm. Hein, il ne fait pas partie de la hiérarchie. Mm-hmm. Il n'a pas le droit de récompenser, de punir. Voilà, il est l'autre, hein, mais qui est toujours là, présent, et qui veut être au plus proche de ses soldats, et puis donner une belle vision de ce qu'est le prêtre qui veut être sportif, qui est capable de les suivre dans leurs activités. Mm-hmm. Voilà.
Donc vous disiez présent mais pas pesant.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que j'étais présent partout dans les activités.
Donc saut en parachute, ski...
Oui, tout ça. Voilà.
Et à eau, voilà. Plonger aussi pendant qu'on y est ?
Plonger ?
Oui.
Oui, j'ai fait des sauts en mer... pas mal, et des sauts en mer de nuit aussi, avec les nageurs de combat d'Ajaccio, ces hommes un peu extraordinaires.
C'est ce qu'on a pendant tout votre livre, hein. Il y a vraiment une grande partie où on vous suit dans cet engagement qui n'est pas simplement « Hey les gars, je suis prête, si vous avez besoin, je suis là, hein, vous me retrouvez dans la salle là-bas ». Non, vous êtes avec eux, vous montez
avec
dans l'avion.
Dans les choses très simples de leurs activités, et je suis là pour tout le monde, puisque moi je partage le repas, la ration, le lendemain, si le général m'invite, je suis avec le général, voilà. L'homme de tous, l'homme de l'écoute, l'homme du bien, l'homme de Dieu, l'homme du sourire, j'ai essayé de travailler avec le sourire, malgré certains jours, c'était plutôt des larmes qui coulaient de mes yeux, plutôt qu'un sourire à donner, mais étant dans la hiérarchie militaire, sans y être, je devais donner l'exemple. Et même dans les moments difficiles, surtout à Beyrouth, c'est à moi que revenaient les dernières paroles d'espérance. Il n'y a que moi qui parlais. Donc, je devais dire que la vie ne se termine pas à cet enterrement, à cet attentat. La vie continue et on doit continuer de se donner, d'accomplir la mission et en particulier d'être auprès de ceux qui nous sont confiés, les cadres avec leurs soldats, leur donner, comme ils disent, la pêche, hein, les aider à aller toujours de l'avant. Et l'aumônier, eh bien, il fait partie de ceux qui encouragent ces jeunes à aller toujours de l'avant. Mais à un moment donné, j'essaie toujours d'aller un peu plus à droite pour annoncer Jésus-Christ, qui est le but de ma mission.
Alors peut-être et qui est aussi la source.
Qui est la source.
Parce qu'il faut être disponible aussi face à la mort, à ces gens qui se trouvent à 3000 km de leur femme qui est en train d'accoucher. Ces choses-là, la vie, quoi.
La vie,
mais la vie dans son côté un peu tranchant saignant.
Ah ben oui, mais celui qui revêt l'uniforme, qui accepte de signer un contrat avec comme soldat, il sait très bien qu'un jour ou l'autre, le sacrifice fait partie du contrat. Même si on n'y pense pas, on n'en parle pas tous les jours, mais on le vit, voilà, à travers les chants de tradition, tous les récits, les fêtes sont nombreuses à la Légion étrangère, comme dans la armée ordinaire des petits Français. Il y a beaucoup de traditions.
Et père, vous n'avez jamais eu de, on va dire, de crise de foi devant, devant la barbarie humaine? Il n'y a pas des moments où un coup, deux coups, trois coups, enfin ça n'arrête pas? Il n'y a pas un moment où vous avez dit, hey, mon Dieu, t'es où, tu fais quoi?
Mais si, à Beyrouth, plusieurs fois quand même, je lui ai demandé,
Pourquoi Seigneur? Qu'est-ce qu'il vous a
répondu? Il m'a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Je suis passé par la croix. Et la croix, c'est le passage obligé. Vous nous l'avez bien dit, Seigneur, plusieurs fois, qu'il fallait passer par ce stade de la souffrance avant la résurrection et la vie éternelle. Et ça, vous y pensez tout le temps. Donc, mais quand même, j'ai interpellé le bon Dieu plusieurs fois. Pourquoi, Seigneur, vous avez permis toute cette horreur que j'ai vécue, tous ces jeunes qui n'étaient venus que pour rendre service à ce peuple qui nous appelait au secours, ce peuple libanais, qui est une terre, la terre de Jésus-Christ, c'est la terre bénite. Le Christ est allé jusqu'à Tyr et Sidon. Il était certainement avec ses apôtres et avec la Vierge Marie et un petit groupe de femmes. Il fallait bien préparer le bivouac, il fallait préparer la nourriture. Donc le Christ est allé jusqu'au sud Liban, cette terre qui était belle, splendide, qui était devenue une terre d'horreur. Voir tous ces jeunes qui étaient pour moi mes gamins, mes petits, mes amis, avec lesquels j'ai partagé tant d'heures dans l'avion, tant de marches dans les Pyrénées, dans les Landes, en Espagne ou dans d'autres pays, je les ai accompagnés d'une manière toujours très proche. Quand ils se faisaient breveter parachutistes, j'étais là avec eux pour faire tous les sauts, le saut nuit, mais j'étais là aussi pour me réjouir, parce que ces gamins, ils avaient découvert qu'ils étaient capables de tellement d'autres choses, de belles choses, de se dépasser. Sortir de l'avion, c'est un peu, c'est pas ordinaire, c'est pas naturel. Eh bien, ils y étaient arrivés, ces gamins. parce qu'ils faisaient confiance à leur cadre, grâce à la présence de l'aumônier. Voilà. Et on se réjouissait après, parce que ils étaient fiers de porter le béret rouge ou le béret vert des parachutistes. Ils étaient fiers peut-être de revenir au pays et de dire à la famille, mais voyez, j'ai réussi, je suis pas plus bête qu'un autre, et je vais aller de l'avant, parce que on va continuer. Oui, c'était de belles choses que je vivais, mais j'ai vécu des choses difficiles aussi avec les familles des morts de Beyrouth. Et chaque année, nous nous réunissons dans un endroit où il y a l'un de nos jeunes qui a été enterré. Au mois d'octobre, il y a presque un an, au mois d'octobre 2024, nous étions à Anglette, autour de la tombe du capitaine Hospital, qui était l'adjoint du capitaine Thomas. Et donc, chaque année, on essaie, les familles, celles qui restent, les blessés, les rescapés, de se rassembler et de prier, de dire merci à ces jeunes qui ont versé leur sang pour un pays autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors, toutes ces paroles, à chaque enterrement, je les faisais ressortir, parce que la parole de l'aumônier, dans ces cas-là, reste une parole très, très actuelle, très vivante. Et je pense toujours à la petite phrase de Sainte Thérèse. Non, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et ça, il faut le répéter aux gens, c'est plein d'espérance.
Alors, on arrive donc au moment des questions. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît?
Ben, 10, alors.
Quelle phrase ou moment de l'Évangile vous donne de l'espérance ?
Moi, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. Et j'ai toujours en tête, chaque jour, pour moi, c'est le Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Le geste de l'esclave, vraiment du petit, c'est celui qui regarde le maître de bas en haut. Alors que lui, le maître, normalement, il regarde de haut en bas. Mais non, il a choisi le service. Alors, j'ai essayé de vivre ce service dans tous les domaines de mon sacerdoce, toujours en vivant au plus près de nos soldats, en les remerciant de tout ce travail pour la France, la fille aînée de l'Église, qu'ils font chaque jour. C'est pour laquelle ils s'entraînent chaque jour. Je trouve que c'est extraordinaire. Et d'avoir vécu certaines opérations de soldats, je les ai vues, comment ils travaillaient, comment ils accomplissaient leur métier. Vraiment, c'est toujours de l'admiration et je les remercie.
Est-ce qu'à nouveau, vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît?
Non, on va passer au 1.
On va au 1?
Ouais.
D'accord. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous?
Je donnerais plus de temps au côté contemplatif. J'allais très souvent chez les bénédictins de Gaussan, près de Narbonne, et après à Ganagobi. Et je ne peux plus y aller maintenant parce que j'ai quelques ennuis de santé qui m'empêchent de manger au rythme rapide des moines. Donc je les ai un peu abandonnés, mais j'avoue qu'il me manque beaucoup ces moments de contemplation, hein, au pied du tabernacle, sachant qu'il est là. Que quand j'étais au Tchad, il m'a accueilli, il m'a écouté, il m'a encouragé. C'est lui qui m'a protégé d'un tas d'obstacles. Vraiment, la providence était là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'homme, le Dieu du tabernacle, le Saint-Sacrement, me suivait dans mes périples dans le désert. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, que c'était bien lui qui me protégeait pour que j'accomplisse vraiment la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. J'espère avoir fait partie de ces humbles ouvriers.
Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, Padré, mémoire d'un aumônier militaire, aux éditions Talendier. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Retrouvez cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Partagez-la autour de vous. Bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast et à la semaine prochaine.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.